Bonjour Patrick Artus, nous sommes à la rédaction de Challenge. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous nous parlez de l'OPEP, de l'OPEP+, et bien sûr des variations du cours du pétrole.
Oui, bonjour à tous. Il faut réaliser que l'OPEP ou l'OPEP+, hein, c'est-à-dire c'est l'OPEP et la Russie, ont très fortement changé leur comportement de production de pétrole au début de 2022 ou à la fin de 2021 par rapport à ce qu'il aurait été dans des mêmes circonstances en ce qui concerne la demande mondiale de pétrole ou la croissance mondiale dans le passé. Alors l'OPEP aujourd'hui a une production de pétrole qu'on peut estimer à 2 millions de barils jour en moins, hein, de ce qu'elle aurait été si l'OPEP avait gardé son comportement passé, c'est-à-dire avait gardé un comportement de faible réaction à la demande mondiale de pétrole. Comme la demande mondiale de pétrole a beaucoup baissé, et l'OPEP a réduit sa production, mais c'est un comportement nouveau. Alors la Russie, si on croit les chiffres officiels, a aussi baissé de 2 millions de barils de jour sa production de pétrole, hein, de 12 à 10 millions de barils de jour. Bon, on a vraiment une incertitude sur la réalité de la production de la Russie. Parce que on sait que la Russie a complètement réorienté ses ventes de pétrole à cause de l'embargo européen. La Russie vend essentiellement son pétrole à la Turquie, à l'Inde et à la Chine pour des montants qui sont assez difficiles à mesurer et à vérifier et à des prix probablement très en dessous des prix de marché. Donc, partons de l'idée que la Russie a aussi baissé sa production de pétrole, mais peut-être pas autant que 2 millions de barils de jour. Comme les prix du pétrole russe, ce qui s'appelle l'Oural, sont fixés 25 ou 30% en dessous des prix de marché mondial du pétrole, le chiffre d'affaires pétrolier de la Russie ne permet pas de remonter à la réalité de la production russe. Alors, je ferai les estimations qui suivent sur la base de la simple baisse de la production de l'OPEP, donc que j'estime à 2 millions de barils de jour par rapport à son comportement antérieur. Et donc si on applique l'élasticité prix, hein, et prix de la demande de pétrole mondial, une baisse de 2 millions de barils de jour de la production de l'OPEP correspond à peu près une hausse de 25% du prix du pétrole. Hein. Et comme le prix du pétrole oscille en ce moment entre 80 et 85 dollars le baril, si l'OPEP avait produit 2 millions de barils de jour, ce qu'elle aurait fait si elle avait gardé le même comportement que dans le passé, eh bien le prix du pétrole aurait été d'une vingtaine de dollars plus bas, hein, il aurait été autour de 60 dollars le baril. Alors il faut remarquer que ce comportement de l'OPEP est très rationnel et très intelligent. Puisque l'OPEP voit que l'élasticité de la demande mondiale de pétrole au prix est assez faible, et donc quand vous vendez du pétrole plus cher, vous gagnez de l'argent et vous avez une baisse de production qui est beaucoup moins que la hausse du prix.
Bien
Donc on se
sûr.
demande pourquoi l'OPEP a pas adopté ce comportement dans le passé. La réponse, c'est que pour la première fois, le cartel tient. Dans le passé, il y avait toujours un producteur de pétrole qui trichait et qui profitait de la réduction de pétrole, de la production de pétrole, par exemple, de l'Arabie Saoudite, pour commencer à produire plus. Aujourd'hui, le cartel tient. Et donc, c'est une nouveauté. Et puis, la deuxième remarque, c'est que l'OPEP fixe le prix du pétrole à un niveau qui est assez élevé, hein, entre 80 et 85 dollars le baril, mais qui n'est pas aussi suffisamment élevé pour provoquer un redémarrage de la production de pétrole non conventionnel. Si on regarde par exemple ce qu'on appelle le rig counting, hein, sur le nombre de forages pétroliers aux États-Unis dans le pétrole de schiste, il augmente à peine. Hein, et on est très 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 loin de la situation de la période antérieure à 2015, où le prix du pétrole était supérieur à 120 dollars le baril et où il y avait une explosion de la production de pétrole américaine et canadienne. Aujourd'hui, l'OPEP fixe un prix du pétrole qui ne redémarrera pas l'offre de pétrole des pays autres que les pays de l'OPEP. Et donc, c'est un comportement très intelligent. Donc, ça, c'est un premier grand changement dans le comportement de l'OPEP. La Russie, honnêtement, a un comportement qui va dans le même sens, mais il est difficile à chiffrer, à quantifier. Et alors, conséquence de ça, eh bien, nous ne profitons plus de la désinflation qu'aurait dans le passé provoqué la faible croissance mondiale. On va avoir une croissance des États-Unis ou de la zone euro inférieure à 1% en 2023. Dans le passé, le prix du pétrole serait tombé effectivement à 60, 50, 40 dollars. Et il va rester entre 80 et 85 dollars. Et donc, ça fait un gros choc inflationniste par rapport à ce que aurait été la baisse du prix du pétrole dans le passé. Alors, le second changement de comportement des pays de l'OPEP, il est aussi très important à comprendre, c'est que les pays de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., ont décidé de préparer leur transition vers une autre économie. Et on voit, alors on a comme indicateur la partie du revenu pétrolier qui génère un excédent extérieur. Hein, et plus la partie du supplément de revenu pétrolier qui est dû à la hausse du prix du pétrole génère un petit excédent extérieur, hein, moins cet excédent extérieur induit par la hausse du prix du pétrole est grand, plus ça veut dire que les pays de l'OPEP investissent et ne placent pas sur les marchés financiers leurs revenus pétroliers. Et on voit que l'Arabie Saoudite, les Émirats ont une politique maintenant d'investissement dans la transition énergétique, dans les énergies renouvelables, dans les nouvelles technologies. Et ça fait vraiment une différence considérable. Ça veut dire que les pays qui traditionnellement s'endettaient auprès des pays de l'OPEP auront de plus en plus de mal à réaliser cet endettement. L'OPEP va de plus en plus investir en investissement de transition, de développement industriel.
Qui s'endettait auprès des pays de l'OPEP ?
Les États-Unis essentiellement, les États-Unis et le Royaume-Uni essentiellement. Et donc, ce n'est pas très bon pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors, c'est très bon, au contraire, pour les pays qui exportent les biens d'équipement qu'achètent les pays de l'OPEP, c'est-à-dire la Corée, la Chine, l'Allemagne, etc. Voilà. Donc, deux changements profonds. L'OPEP gère sa production en fonction de la demande mondiale, avec un objectif de stabilité des prix à un niveau suffisamment élevé pour être rémunérateur, mais pas suffisamment élevé pour provoquer une explosion vers le haut de la production des pays autres que les pays de l'OPEP. Et puis l'OPEP va investir de plus en plus des revenus pétroliers qui ne seront plus disponibles pour être recyclés sur les marchés financiers, sur les dettes publiques des pays de l'OCDE. Donc ça, c'est... Ce dernier aspect du nouveau comportement de l'OPEP, c'est essentiellement les États-Unis qui en pâtiront, et les États-Unis devront de plus en plus chercher à refinancer leur déficit extérieur autrement que par l'attraction de l'épargne de l'OPEP. Alors, je crois que j'ai à peu près terminé. Si vous avez
une question sur la nouvelle donne, on va dire géostratégique dans cette région. Il y a des alliances, accords d'Abraham, rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, etc. Est-ce que ça peut avoir un impact à la fois sur l'OPEP et sur les cours du pétrole ?
Ah oui, mais l'OPEP ne tient plus aucun compte des besoins des pays occidentaux. Et alors, c'est compliqué l'équilibre, parce que les États-Unis ont un excédent extérieur pour le pétrole et le gaz. Donc, quand le prix du pétrole monte, c'est bon pour les États-Unis.
Peut-être rappeler depuis quand ?
Ils sont exportateurs.
Depuis 3 ans. C'est un petit excédent, mais les États-Unis ont un demi-point de PIB d'excédent extérieur pour le pétrole et le gaz. Donc, c'est une rupture considérable dans l'équilibre géopolitique, géostratégique mondial, parce que les États-Unis ont intérêt à ce nouveau comportement de l'OPEP, parce que ça enrichit les États-Unis. Alors, quand le prix du pétrole monte, ça fait plus de revenus aux États-Unis. Et alors, il y a un problème de répartition de ce revenu. On a vu que ce revenu est accaparé par les compagnies pétrolières et va pas vers le consommateur américain, mais les États-Unis sont les gagnants d'un prix du pétrole cher. Alors, les grands perdants du prix du pétrole cher, c'est les importateurs de pétrole. Donc, c'est des pays comme l'Europe, comme la Turquie, comme la Chine, comme l'Inde, qui sont massivement importateurs de pétrole. Donc, et ensuite, Pour répondre à votre question, c'est clairement l'Arabie saoudite s'est dissociée d'un point de vue stratégique, géopolitique des États-Unis. Les États-Unis défendent encore la thèse qu'ils n'aiment pas un prix du pétrole très cher, même si c'est bon pour leur économie, parce que ça ne tombe pas dans la poche du consommateur américain, ça tombe dans la poche des compagnies pétrolières américaines. Le consommateur américain est pénalisé par un prix du pétrole trop cher, surtout qu'il y a peu de taxes. Donc, en termes relatifs aux États-Unis, il y a un passage assez direct du prix du pétrole sur les prix des carburants. Donc, l'administration américaine, traditionnellement, prônait un pétrole peu cher, c'est-à-dire l'absence de réduction de production des pays de l'OPEP quand la demande mondiale de pétrole était faible. Et elle est désavouée depuis 2 ans complètement par l'Arabie saoudite et par les autres pays de l'OPEP qui ont pris leur indépendance en ce qui concerne la stratégie de prix du pétrole complètement des États-Unis. Et effectivement, ça correspond au rapprochement de l'Arabie saoudite avec l'Iran, de l'Arabie saoudite peut-être avec la Russie, la constitution de l'OPEP+, qui associe les pays de l'OPEP et la Russie. Enfin, et donc, il y a vraiment un détachement. Les pays du Moyen-Orient se détachent du point de vue politique des États-Unis. Et bon, alors, les grands perdants, comme je l'ai dit, les États-Unis en termes nets, Si on agrège les consommateurs et les producteurs de produits pétroliers américains, les États-Unis sont gagnants d'un pétrole cher. Hein, donc, ils ne souffrent pas économiquement. Les grands perdants de ce pétrole cher, c'est par exemple la zone euro. Hein, la zone euro par rapport aux États-Unis, si on avait la même dépendance vis-à-vis du pétrole de l'OPEP que des États-Unis qu'il y a 20 ans, les États-Unis auraient 5 points de déficit extérieur de plus. Donc, 5 points de PIB. Donc, l'avantage comparatif des États-Unis par rapport à la zone euro aujourd'hui, c'est 5 points de PIB de capacité à investir davantage. C'est absolument considérable.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci Patrick Artus d'y avoir participé. Et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de Challenge.